Vous écoutez RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer par un grand merci. Merci à vous, merci pour votre enthousiasme au sujet de cette nouvelle émission qui, déjà après 4 mois d'existence, affiche des audiences records et se classe programme de radio le plus écouté en France entre 9h15 et 10h le samedi matin. Et pour tous ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui pour la première fois, sachez que notre mission à nous, c'est de donner un tempo joyeux, informatif et positif à vos débuts de week-end. Et aujourd'hui, on va vous faire décoller.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
Et pour crier ciel, ô ciel, et atteindre le septième avec son partenaire, Claire Alquier est notre invitée. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, on va parler de sexualité ce matin sur RTL. C'est quoi atteindre le septième ciel? Est-ce que c'est atteindre un bon et bel orgasme?
Alors, en grec, organ, ça signifie bouillonnement ardent. Donc déjà, on est dans quelque chose d'intense.
C'est déjà pas mal.
Voilà, je pense
c'est
que prometteur. Ça démarre bien.
D'accord, ok. C'est facile à atteindre ou pas?
Alors, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà. Je vais vous donner des petits tips.
D'accord. Ce qu'on appelle des tips, c'est une
des conseils, clés, quoi. Ouais, des petites clés.
Ok. Pour ne plus avoir l'impression de tomber du ciel en entendant parler de sciences astrales, bonjour Marc Brun.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes astrologue et président de la Fédération des astrologues francophones. Concrètement, c'est quoi l'astrologie et à quoi ça sert?
Oula, vous avez une heure ou deux devant vous.
Non, on a que voilà jusqu'à 10h. Mais vous allez être rapide, j'en suis très...
C'est une science basée sur un savoir ancestral qui se base sur les concordances entre les mouvements du ciel et l'homme.
Vous nous ferez une explication tout à l'heure et vous nous raconterez tout ça. Et puis pour s'envoyer en l'air sans avoir peur de partir au ciel, il faut surmonter sa trouille de l'avion. Et ça tombe bien car Philippe Guéry est votre invité sur RTL. Vous êtes coach, Philippe, vous êtes conférencier, formateur et vous êtes ancien responsable psychopédagogique du centre anti-stress d'Air France. De quoi est-ce qu'on a peur quand on monte dans un avion, Philippe Guéry?
Bonjour Flavie, on a peur de tout, potentiellement, de tomber, d'être trop dans ce ciel-là dont on va beaucoup parler, de mourir, de se sentir prisonnier. Toutes les peurs possibles et imaginables qui peuvent se focaliser sur ce drôle d'endroit qu'on appelle un avion, qui évolue dans un drôle d'endroit qu'on appelle le ciel.
Oui, et tout ça, on ne le maîtrise pas, évidemment, lorsque l'on est passager. Oui. Mais c'est quoi? Ce sont les turbulences? On a peur que l'avion se casse la figure?
Les turbulences effraient à peu près tout le monde, d'abord par des sensations qu'on décrypte comme étant trompeuses, et puis la peur de tomber, bien sûr, la peur de l'accident. Les gens savent absolument que c'est le moyen de transport. J'ai même pas besoin de finir la phrase. Ça les irrite. Ça les irrite au plus haut point parce que c'est bien au-delà de ça.
Ouais.
Et puis, il y a aussi des peurs qui concernent l'être humain lui-même, centré sur lui, peur de ses réactions, peur de ses sensations. On a affaire à des gens qui peuvent avoir des attaques de panique ou craindre d'en faire, qui peuvent être claustrophobes, l'impression d'être prisonnier d'un endroit clos, ou alors trop immense comme ce ciel-là justement, dès lors qu'on va regarder par le hublot.
Oui, puis on est obligé de s'en remettre aussi au commandant de bord et à l'équipage.
C'est-à-dire
que personne ne sait piloter un avion et personne ne sait voler en soi.
Oui. Et c'est pourtant c'est une question qu'on ne se pose pas dans d'autres environnements, dans d'autres moyens de transport, de déléguer ça à quelqu'un d'autre.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est spécifique à l'avion. Ça tient peut-être à ce drôle d'endroit dans lequel il évolue.
Est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui angoissent, Philippe Guéry?
Il y a un peu plus de femmes que d'hommes parce que les études scientifiques montrent que les femmes sont a priori plus anxieuses, donc elles l'expriment. On a aussi des hommes. Par rapport à la population du centre anti-stress, c'est plutôt des personnes actives qui sont tournées vers des objectifs professionnels et personnels avec l'avion qui va les handicaper. Et évidemment, ça peut concerner des enfants aussi, en exprimant les mêmes appréhensions d'ailleurs.
Claire Alquier, vous avez peur en avion, vous?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Donc c'est quelque chose qui vous semble naturel? Vous
n'avez, je trouve ça assez fascinant même.
Marc Brun?
Tout va bien.
Tout va bien, vous, en avion? Oui, mais vous regardez votre horoscope avant, donc évidemment, ça arrange les choses. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai appris quelque part, je dirais, à avoir peur en avion, Philippe Guéry, quand je suis devenue maman, déjà. Et quand j'ai réfléchi, parce que vous parlez des enfants, mais moi, je trouve que les enfants, naturellement, ils ne se posent pas trop la question, ça décolle. Je trouve que c'est quand on réfléchit qu'on se met à avoir peur.
Quand on commence effectivement à réfléchir, les enfants réfléchissent assez vite. Hein, donc, cette appréhension peut leur venir assez rapidement.
D'accord.
Et puis, que ce soit pour des enfants comme pour d'autres personnes, on ne va pas rentrer dans votre cas personnel, mais il y a toujours des connexions à établir avec d'autres environnements sociaux, personnels, professionnels. La maternité, qui est pourtant un super heureux événement, peut être un déclencheur. Un burn-out aussi, une promotion professionnelle, le décès d'un proche, un mariage à venir.
Voilà, en fait, donc, toute la vie, quoi.
Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de gestion du stress, pour éviter d'empiler toutes les situations potentielles de stress.
Dans un instant, vous allez nous expliquer justement s'il y a de bonnes stratégies à développer. Est-ce que boire un petit coup avant de prendre l'avion, c'est vraiment une bonne idée? Et puis, vous allez nous rassurer en nous expliquant à quoi correspondent les turbulences, les bruits des avions. Et on n'aura plus peur et on pourra s'envoyer en l'air tranquillement. Ouais, on se retrouve tout de suite jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
J'étais en train de dire à nos invités dans ce Nous voilà bien qui accompagne votre samedi matin jusqu'à 10h sur RTL que notre petit jeu à nous le samedi, c'est de vous mettre des musiques dans la tête pour toute la journée. Merci Plastique Bertrand. Pourquoi cette chanson Ça plane pour moi? Parce qu'on s'intéresse au ciel aujourd'hui. Le 7e ciel, on en parlera avec Claire Alquier qui est sexologue et qui va nous aider, nous expliquer comment éventuellement on peut l'atteindre si on ne le connaît pas. L'astrologie aussi, est-ce que vous êtes sensible à l'astrologie? Vous allez pouvoir avoir des réponses, en tout cas aux questions que vous vous posez avec Marc Brun. Et puis la peur de l'avion, on en parle avec Philippe Guéry. Dans ce studio, a priori, je suis la seule, en tout cas autour de cette table et derrière ces micros, à de temps en temps avoir un petit peu la trouille lorsque je suis dans un avion, Philippe Guéry. Vous, c'est votre dada, vous arrivez à déconstruire finalement nos croyances. Quelles sont-elles? C'est quoi une turbulence? C'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de panne moteur? Est-ce qu'un avion, ça tombe comme une pierre? Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on fantasme énormément sur le sujet.
Alors, la réponse la plus simple, concernant la question la plus simple à propos de l'avion, est-ce que vous en voyez beaucoup qui tombent comme ça, comme une pierre? Non. Évidemment non, parce que c'est comme la chanson de Plastique Bertrand, ça plane. Voilà. Pourquoi ça plane? Et ça nous ramène aux turbulences, parce que l'avion évolue sur et dans un élément qui s'appelle de l'air, des petites molécules qui vont le porter. Alors ça peut nous paraître inconcevable parce qu'il est très lourd, très gros, mais c'est aussi parce qu'il va très vite qu'il maintient cet effet de portance. Et ce qui est particulier avec la turbulence, donc je ne suis pas pilote, je ne vais pas aller très loin dans la technique, d'autant plus que les personnes qui ont peur de l'avion, enfin, en tout cas certaines d'entre elles, auraient ce besoin-là d'être très cartésiennes, alors que nous on va plutôt les amener sur un autre terrain de déléguer, de lâcher prise, etc., avec quelques explications quand même. Donc en fait, ce qui est compliqué avec les turbulences, c'est qu'on a l'impression de tomber.
Alors que ce n'est pas le cas.
Alors que l'avion se cogne. Et la turbulence, c'est précisément la preuve absolue qu'il ne peut pas se casser la gueule comme ça, puisqu'il se cogne à de l'air. Et c'est juste un fluide qu'on aurait souhaité tous, autant qu'on est, plutôt calme, comme une eau et comme une mer d'huile, alors que c'est un petit peu agité. Voilà,
c'est comme s'il y avait des vagues.
Exactement.
Des vagues dans l'air.
Des vagues ou des gros pavés.
Mais est-ce qu'on descend beaucoup quand il y a des turbulences? Parce que parfois, on a vraiment l'impression, pour le coup, que l'avion se casse la figure.
Non, ça ne descend pas de beaucoup. Ça se compte la plupart du temps en centimètres. Alors qu'on a l'impression
que ça se compte en centimètres. Non, j'étais déjà sur le sujet sexo, pardonnez-moi.
Oui. Alors qu'on a l'impression que c'est de plusieurs mètres, tout simplement parce que nos capteurs sensoriels, nos capacités sensorielles sont absolument pas adaptées, étalonnées pour se synchroniser avec ce qu'on ressent.
On exagère
naturellement, puisque cet avion évolue à 1000 km/h à peu près, et cette vitesse-là qui est faramineuse, on ne l'a ressent pas. C'est quand même paradoxal.
Ok, je comprends. Pas de moteur. Il y a plusieurs moteurs dans un avion.
Oui.
Donc il y a toujours un moteur de secours.
Tout à fait.
Et puis il y a toujours un aéroport de toute façon pour pouvoir aller se poser.
Alors toujours relativement, parce que quand on va survoler de l'eau, ce qui est une des appréhensions.
De traverser comme
ça. Voilà, traverser l'Atlantique. En fait, il y a des routes qui sont établies en fonction de tout un tas de paramètres. La météo, les aéroports de déroutement évidemment. Et en gros, quand on s'intéresse à la fiabilité de certaines parties d'un avion, comme les moteurs, on estime environ que la probabilité que tous les moteurs s'arrêtent en même temps, c'est estimé à une fois tous les 250 ans.
D'accord.
Donc on a de quoi voir venir.
Bon, ça va, on est peinard.
Voilà. Et surtout qu'un avion peut décoller sur un seul moteur, voler et atterrir sur un seul moteur.
Vous êtes notre nouveau meilleur copain quand même, hein, Philippe Guéry, il faut qu'on vous le dise. Hein. Bon, alors, les stratégies développées par les angoissés, parfois, c'est de boire un petit coup, c'est de prendre quelques calmants. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, stratégie de ne pas prendre l'avion, de grosse stratégie d'évitement.
Oui,
depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans pour certaines personnes.
Oui, oui.
Donc, les stratégies.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Efficace, c'est déjà de le dire. Oser le dire, parce que cette appréhension, cette phobie particulière, généralement, on n'ose pas, trouve ça honteux, ridicule. Encore une fois, surtout quand on est une personne très cartésienne, ce truc-là nous échappe, alors qu'il n'y a pas plus cartésien. Hein, c'est pour ça que je suis votre meilleur copain depuis quelques minutes. et c'est ça qui est paradoxal avec l'avion. Donc, les bonnes stratégies, oser le dire. Et puis, essayer de mettre en place des techniques de relaxation de toute nature qui peuvent nous permettre de nous distraire au sens premier du terme pendant un temps qui peut nous paraître infini et qu'on peut occuper à autre chose, qu'on doit occuper à autre chose plutôt qu'à être en alerte.
On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous donner, nous parler aussi très rapidement des stages que l'on peut faire parce qu'effectivement, apparemment, c'est très efficace. Et puis, vous avez peut-être joué avec nous la semaine dernière. Eh bien, figurez-vous qu'on va annoncer le nom du gagnant dans un instant. Ce sera peut-être vous. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est le magazine positif de vos samedis matins et aujourd'hui on s'intéresse au ciel.
Mais qui est le grand gagnant de la semaine ?
La semaine dernière, vous avez battu des records de participation, figurez-vous, à notre jeu pour remporter un robot performance pro Russell Hobbs qui va vous permettre, comme Valérie Le Mercier le dit...
Ça vous plaît ? Oui, c'est moi qui l'ai fait.
C'est moi qui l'ai fait. Et c'est vous, Danouche, qui êtes la grande gagnante. En voilà une bonne nouvelle. Pour les autres, sachez que le jeu reprend avec un cadeau canon. Je vous dirai un petit peu plus tard de quoi il s'agit dans l'émission. Dans ce studio, donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, nos invités avec lesquels nous allons parler du ciel sous toutes ses coutures et sous tous ses visages. On va parler de sexologie avec Claire Alquier. On va parler d'astrologie avec Marc Brun. Une dernière question à vous, Philippe Guéry, puisqu'on parle de notre peur de l'avion. Les stages anti-stress, organisés par des compagnies comme Air France, par exemple, c'est quelque chose vraiment d'efficace ?
Une bonne nouvelle, oui. On estime que ça fonctionne à 95%. Ouais. C'est ce que nous disent les personnes, en tout cas, avec une efficacité qui peut être relative, mais qui montre absolument qu'il y a un avant et un après quand on arrive à banaliser ce drôle d'environnement.
D'accord, donc ça peut quand même changer la vie,
voyages. On le rendra accessible.
D'accord, ça dure combien de temps et ça coûte combien ?
Alors le stage en lui-même dure une journée plus ce qui précède les entretiens psychologiques et ce qui peut suivre avec des recommandations ou des feedbacks auprès du psy. Et ça coûte 680 € et c'est pris en charge à hauteur de 70% par les entreprises aujourd'hui.
D'accord, donc tournez-vous vers votre entreprise. On va continuer, on va rester dans les étoiles, dans le ciel si vous le voulez bien. Je suis cancer, ascendant cancer. Bref, je suis une personne extraordinaire. C'est pas moi qui vous le dis, c'est mon astrologue. Place aux sciences astrales avec vous, Marc Brun. Vous êtes astrologue et président de la Fédération des astrologues francophones. J'ai appris plein de choses grâce à vous, dites-moi.
Oui.
Bah oui, c'est super intéressant.
Mais ça tombe bien puisque l'astrologie, c'est justement un outil de connaissance de soi. Ouais. Donc on est en plein dans le thème, si
j'ose
dire.
Mais c'est à ça que ça sert en fait l'astrologie ?
D'abord, ça sert à mieux se connaître et aussi à pouvoir éclairer un petit peu le chemin.
D'accord. Et les astres, ils ont vraiment une influence sur notre vie ? Comment ça se passe en fait ?
Alors, cette notion, je vais te dire quelque chose qui va étonner, mais en fait, les astres n'ont pas d'influence sur nous. On peut quand même pas imaginer que Pluton, qui est à des milliards de kilomètres, puisse avoir une influence quelconque sur nous. En fait, on parle un petit peu d'histoire de l'astrologie, où l'astrologie remonte à très longtemps, où déjà il y a fort longtemps, nos anciens, quand je dis il y a très longtemps, il y a entre 3 et 5000 ans, les anciens regardaient le ciel, observaient le ciel pour les variations météorologiques et aussi pour rythmer le temps.
Voilà.
Et ils se sont aperçus en regardant le ciel qu'il y avait des choses qui se répétaient. Et quand il y avait des choses qui se répétaient, et ben il y avait aussi sur Terre des choses qui arrivaient. Donc c'est une espèce de concordance entre le haut et le bas, si j'ose dire, qui sont la base. Quelque part, l'astrologie, c'est la somme de ces concordances. C'est aussi ce qu'on appelle la synchronicité.
D'accord. Alors, c'est intéressant parce que vous voulez parler de sciences astrales.
Oui.
Ça vous parle plus.
C'est bien la notion de science astrale, même si la notion de science n'est pas à prendre au sens
degré,
technique, scientifique du terme, mais plutôt sciences humaines.
Est-ce que vous êtes sensible, Claire Alquier, à l'astrologie ?
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, je dois
c'est
dire.
C'est vrai ? Ouais. Et vous, ça veut dire que vous lisez votre horoscope ? Ça veut dire que...
Alors, je le lis avec un certain amusement dans les magazines féminins, notamment. Je trouve ça quand même toujours assez drôle, mais je suis attirée par les pages d'horoscope, c'est vrai.
Ouais.
Et je connais mon ascendant, je connais mon signe, je connais un petit peu... J'ai fait des thèmes astrales, enfin, c'est quelque chose qui me parle assez.
Philippe Guéry ?
Un peu plus depuis tout à l'heure, puisque j'ai découvert qu'il y avait une astrologie dite sérieuse, en tout cas de mon point de vue, qui ne prédisait pas. Et effectivement, ça fait plus écho avec cette notion de science-là, même si elle n'est pas figée.
Voilà, c'est ce qui est intéressant, effectivement, lorsque l'on échange avec vous, Marc Brun, c'est qu'on n'est pas dans l'astrologie, un petit peu Madame Irma, mais on est dans ces sciences astrales dont vous nous parliez il y a un instant. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une consultation ? Beaucoup ?
Alors, déjà la consultation, c'est déjà un moment où on s'occupe de soi. C'est déjà un moment important. Ensuite, c'est quelque chose qui peut permettre de mieux se connaître. On en a déjà parlé. Et qui peut permettre aussi d'anticiper le terrain. Je voudrais revenir sur la notion de prévision ou de prédiction. C'est-à-dire qu'on ne prédit pas. C'est vrai qu'on ne vous dit pas ce qui va vous arriver. Par contre, on peut parler de ce qui peut vous arriver.
On va se retrouver dans un instant. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui va vous arriver, c'est qu'on va passer du bon temps hein, jusqu'à 10h sur RTL avec nos invités, vous l'avez compris. On continuera à parler astrologie, sciences astrales avec Marc Brun. Et puis après, on va parler du 7e ciel. Vous savez, ce 7e ciel qu'on cherche toujours à atteindre quand on fait des câlins. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Gold qui vous accompagne jusqu'à 10h sur RTL. Enfin, Gold, pas tout seul quand même, hein, puisque nous voilà bien. C'est toute une équipe, Flavie Flamand, à votre service, avec nos invités aujourd'hui. Claire Alquier qui va nous parler de sexo. Vous avez entendu les conseils également concernant l'avion avec notre invité Philippe Guéry. Philippe Guéry ?
Guéry,
voilà, c'est ça. Mais voilà, mais je dois avoir un problème avec mon thème astral, en fait. À mon avis, si, parce qu'on parle aussi d'astrologie. Et j'ai l'impression, Marc Brun, là, que ce matin, je suis un petit peu fatiguée. Il m'arrive d'être un peu à côté de la plaque et de ne plus me souvenir du nom de mes invités. Est-ce que vous aviez prédit ça, vous qui êtes astrologue?
Alors, prédire non. Prévoir, par contre, aurait été possible. Il est fort possible que là, il y a des aspects par rapport à la Lune, par rapport à Mercure, qui sont un petit peu dissonants et qui font que c'est peut-être moins facile que d'habitude.
D'accord, ok. Bon, on peut consulter, vous le disiez il y a un instant, un astrologue pour avoir des idées non pas de ce qui va arriver, mais de ce qu'il peut arriver. Comment ça se passe une consultation ?
En général, ça se passe bien.
Oui.
Disons qu'on étudie tout d'abord le tronc, si j'ose dire, c'est-à-dire le thème de la personne, c'est-à-dire sa personnalité, le contexte, etc. Et puis après avoir étudié le tronc, on étudie les branches, c'est-à-dire que les potentialités de la personne, mais aussi en lien avec l'actuel.
D'accord, ok. En même temps, vous dites que ça se passe bien, mais ça se passe bien quand on tombe sur le bon astrologue. C'est ce que disait Philippe Guéry tout à l'heure. Oui, je m'ouvre à l'astrologie parce qu'il vous a rencontré. Mais parfois, on peut être sceptique aussi. Comment est-ce qu'on est sûr de ne pas tomber sur un charlatan ?
Alors, l'idéal serait qu'il existe un diplôme d'astrologue qui serait un repère. Nous, au niveau de l'AFDAF, on travaille un petit peu là-dessus. Ça n'existe pas. Voilà. Après, il y a d'autres repères. Je pense que le bouche à oreille est quelque chose qui fonctionne bien. D'autres repères aussi au niveau argent. Il ne faut pas qu'ils vous demandent des sommes faramineuses.
Mais ça coûte combien une consultation ?
En général, ça coûte entre 80 et 140 euros une consultation. Ça dépend des régions. Voilà. Ouais. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le numéro Siret. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit réellement déclarée. Il faut que vous la trouviez dans l'annuaire.
Il faut
que ce soit officiel. Il faut qu'elle soit référencée officiellement quelque part.
D'accord. Il ne faut pas que ce soit juste un petit morceau de papier glissé sous le pare-brise en vous disant qu'on va vous raconter votre vie.
Faut qu'il y ait du sérieux à la base.
D'accord. Ça dure combien de temps une séance ?
Ça peut durer entre 1h30 et 2h30 et il y en a certains qui font 3 consultations d'une heure. Parce que c'est vrai que c'est prenant quand même.
D'accord, donc quand c'est un quart d'heure, non, c'est pas la peine.
Ah non, une consultation d'un quart d'heure, non. Là, on est dans des audio-hôtels ou des choses comme ça qui sont tout, sauf de la vraie astrologie.
L'astrologie par téléphone ?
Ça dépend, ça peut se faire. Alors là aussi, ça peut. Faut pas que ce soit court. Personnellement, je préfère. Globalement, on préfère voir.
Rencontrer la personne.
Voilà, au moins la première fois, mais voir la personne, parce que il faut aussi voir la personne. Parce qu'il y a une chose, c'est que le fait de maîtriser l'astrologie, c'est une chose. Le fait de pouvoir gérer une consultation, c'en est une autre.
D'accord. Hein,
on peut être très intelligent et pas forcément pédagogue.
Okay.
On peut être maîtriser la science astrologique et gérer une consultation astro. C'est un métier. C'est un métier.
Claire Alquier nous disait qu'elle était friande d'horoscopes dans les magazines féminins. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça ?
C'est pas vraiment fiable. Hein.
D'accord.
D'ailleurs, voilà. Je pense que le mieux, c'est quand même d'aller voir un astrologue et puis que cette personne vous fasse vraiment une étude personnalisée. Et là, ce qui sera dit sera sûrement beaucoup plus fiable que ce qu'on peut lire sur les horoscopes.
Voilà, ce sera plus du sur-mesure.
Tout à fait.
On ne peut pas faire de l'astrologie pour tout le monde. Quoi,
On est un petit peu dans le générique, oui.
D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et grâce à vous, j'ai appris que j'étais donc cancer, ascendant cancer. Donc pour moi, ça a été une révélation. Vous me donnerez mon thème astral un petit peu plus tard.
L'appli de la semaine, de nous voilà bien.
On garde la tête dans les étoiles avec l'application Skyview qui est notre coup de cœur de la semaine. C'est un petit bijou, ça va apporter un petit peu de poésie à votre quotidien. De jour comme de nuit, en fait, cette application, elle vous permet d'observer, de localiser, de reconnaître des planètes, des étoiles, des constellations, des satellites grâce à la technologie de la réalité augmentée. Vous connaissez Philippe Guéry, vous ou pas ?
Oui.
C'est super joli.
Oui,
hein.
C'est génial.
Il vous suffit de pointer votre téléphone vers le ciel et là, paf, devant vous, il y a Vénus, Mars, la Lune, la Grande Ourse et même la Station Spatiale Internationale. Bon, c'est pas pas la peine d'aller chercher les amis astronautes de Thomas Pesquet, ça va pas jusque là. Le système solaire n'aura donc plus aucun secret pour vous. Montrez-la à vos enfants, qui sait, ça va peut-être aussi faire naître des vocations, c'est jamais. Et puis mettez des étoiles dans les yeux de votre rancard. On en connaît une pour qui ça a marché vers l'infini et au-delà. Dans un instant, on se retrouve avec Claire Alquier. On va parler du 7e ciel, des orgasmes sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis ?
Ah, je me suis reconnue dans l'extrait d'Amélie Poulain. C'était le film Amélie Poulain. Quand on parle du ciel, on imagine aussi le septième, celui où des oiseaux chantent dans votre tête, votre cœur et ailleurs. On peut aussi appeler ça l'orgasme. Alors, dans cette émission qui parle du ciel aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas vous recevoir, Claire Alquier. Vous êtes sexologue, membre du cabinet de curiosité féminine. Vous le disiez tout à l'heure, hein, en fait, atteindre le septième ciel, c'est atteindre un bel orgasme. Ça fonctionne comment un orgasme, qu'on soit un homme ou une femme ? Alors, peut-être que ces messieurs vont apprendre un truc aussi.
Bah peut-être.
Hein, soyez attentifs.
Mais déjà, en matière de sexualité, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas de moment de vie plus privilégié que d'autres pour apprendre.
Bon, voilà, ça, Philippe Guéry, c'est votre journée, là.
Et l'orgasme, eh bien, ça fonctionne. Enfin, il faut passer par le cerveau. Le cerveau, on dit souvent que c'est le premier organe sexuel. En fait, c'est le cortex qui va recevoir les messages sensoriels, qui va recevoir les stimulations et qui va les restituer.
D'accord.
Et donc, tous les neurotransmetteurs, ils vont faire leur boulot à ce moment-là et amener vers cette sensation de bien-être, de plaisir, d'euphorie, selon les expériences de chacun.
Oui, ça peut être une sensation même encore mieux que l'euphorie. Enfin, ça peut transporter, quoi. C'est unique, l'orgasme.
Ça transporte. Il y en a qui ont des fous rires, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont vraiment dans une petite bulle de coton. Enfin, c'est assez...
Je me tourne avec Guéry. Vous êtes connaisseur, vous Non, qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Si vous voulez, mes expériences personnelles, ça sera peut-être hors micro. Si on parle de nouveau des gens qui ont des difficultés avec l'avion, monter au ciel, pour eux, c'est déjà super compliqué.
Ouais.
Puisqu'on est sur des bonnes nouvelles, il arrive quand même que sur des vols, les commandants de bord fassent une annonce qui est plutôt prisée d'un lever de lune. Voilà.
Oh, c'est joli.
Donc ça.
Ça
a quelques connotations qui
peuvent. C'est carrément sexy, voilà, ça. J'ai jamais eu ça dans un avion.
Ça donne envie d'être dans un avion, peut-être.
Ah oui, là, ça peut être motivant pour le lever de lune. C'est très joli. Il y a des orgasmes qui sont plus difficiles à atteindre que d'autres, en fait.
Moi, j'ai quand même du mal.
En dehors de l'avion.
Avec cette hiérarchie de l'orgasme, j'ai envie de dire que, non, ça dépend beaucoup des personnes. Ça dépend de son parcours, ça dépend de son éducation, de la culture, de la religion. Enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent jouer sur l'accès ou pas de l'orgasme. Dans la sexualité féminine, par exemple, on parle souvent de cette fameuse dichotomie qui oppose l'orgasme clitoridien vs l'orgasme vaginal, et où on entend beaucoup que l'orgasme vaginal serait plus dur à atteindre. Eh bien, non, ça n'est
pas
vrai.
C'est un cliché, ça ?
C'est un cliché. Sur la sexualité, moi je préfère parler d'orgasme interne ou externe, parce que ce dont on parle quand on parle d'orgasme clitoridien, c'est bien de la stimulation externe du clitoris.
D'accord.
Même clitoris qui est complètement partie prenante du rapport quand il y a pénétration vaginale. Donc en fait, il y a vraiment cette...
Tout est lié, quoi.
Tout est lié, il bouge, il évolue pendant le rapport, que ça soit une pénétration avec un doigt, un objet ou un pénis.
D'accord.
Et c'est assez fascinant de se rendre compte que finalement tout l'organe travaille pendant ce rapport sexuel.
Même chose pour les hommes, en fait. Enfin, ils n'en ont qu'un.
D'orgasme ?
Oui.
Eh bien,
il
y a l'orgasme prostatique tout de même.
Ah, mais oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu perds tendance ? On en a parlé dans On est fait pour s'entendre.
On pourrait considérer qu'il est plus difficile à atteindre, mais finalement, c'est pas tant une raison de technique ou d'expérience, c'est plutôt une raison de lâcher prise, ouverture d'esprit, curiosité, de peut-être sortir de l'idée que l'orgasme prostatique, il n'est adressé qu'aux personnes qui ont des rapports anaux, et que donc un rapport anal, pour beaucoup d'hommes, encore aujourd'hui, c'est des rapports homosexuels.
Alors, c'est intéressant, parce que là j'invite nos auditeurs à se tourner vers notre autre émission, vous savez, du lundi au vendredi on est ensemble de 15h à 16h, on a fait une émission sur les clichés de la sexualité et vous retrouverez le dernier numéro en replay justement sur rtl.fr et on y parle de ce fameux orgasme prostatique. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de l'orgasme. Vous nous direz si c'est réellement plus facile à atteindre seul ou accompagné, si c'est bon pour la santé. On va voir qu'on peut parfois en mourir, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Enfin bon, tout ça vous l'apprendrez dans un instant sur RTL, à tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Oui, oh oui, oui, oh oui, 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 oh, ah, ah, oui, oui, oh oui, ah, oui, oui.
Bah dis donc, on le garde jusqu'au bout, hein.
Oui, oh mon Dieu, oh, oh oui,
Donnez-moi la même chose qu'elle.
Très bien, donc vous venez d'entendre l'orgasme de Meg Ryan, très célèbre dans le film Quand Harry rencontre Sally, puisqu'on en parle de cet orgasme avec Claire Alquier sous les oreilles attentives hein, de Philippe Guéry et de Marc Brun. Très jolie anecdote hein, sur le lever de lune, là, je m'en remets pas. Merci. Philippe Guéry. Alors, ces fameux orgasmes, il nous reste quelques minutes à être ensemble. Est-ce que c'est plus facile de l'obtenir seul ou accompagné? On dit souvent que la masturbation permet un orgasme plus rapide.
Eh bien, moi, j'ai rencontré des personnes qui n'arrivaient pas à avoir ce plaisir solitaire, justement, alors qu'ils arrivaient à avoir des orgasmes à deux. D'accord. Ou à plus. Et d'autres personnes pour qui, par contre, l'orgasme n'était pas possible en couple ou avec des partenaires, mais possible tout seul. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un aide l'autre et que le plaisir solitaire, la masturbation qu'on peut avoir, très clairement, ça va aider à avoir une meilleure connaissance de son corps, peut-être repérer les zones de plaisir, celles qui vont le mieux fonctionner, pour pouvoir mieux guider son ou sa partenaire après. Ça aussi, ça peut être assez intéressant, se connaître, se pratiquer, éveiller et en fait éduquer toutes ces zones-là, érogènes, qui ont vraiment besoin d'éducation.
Ça n'est pas sale, hein, parce qu'il y a encore des croyances hein, qui disent que se donner du plaisir, c'est quelque chose qui n'est pas bien.
Ah bah oui, on nous a quand même promis de mourir dans d'atroces souffrances quand on se masturbait, de devenir aveugle, sourd, d'avoir des hépatites.
Il faut le répéter quand même, hein, donc tout va bien. Quoi. C'est bon pour la santé d'avoir un orgasme.
C'est
en plus,
très bon pour la santé d'avoir un orgasme. Ça produit des endorphines, qui sont les molécules du bonheur, qui font qu'on se sent bien. Ça produit aussi tout un tas d'autres molécules de plaisir, ça balaye des tensions, ça permet de mieux s'endormir, ça réduit le stress, ça fait circuler le sang, donc on parle souvent du teint rosé qu'on peut avoir, ou voilà, de la bonne qualité de la peau, des cheveux.
Tu as bonne mine aujourd'hui.
Voilà, il a plein de vocations positives à l'intérieur et à l'extérieur, cet orgasme, donc vraiment, il faut le valoriser, l'entretenir, l'encourager, le chérir.
Ouais. Et dites-moi, il paraît qu'on peut mourir d'un orgasme. Alors là, bon, j'ai toujours entendu ça, mourir d'épectase. Oui. Le mot est absolument magnifique, je trouve. C'est ainsi que se serait éteint Félix Faure en 1899. Et tout le monde a entendu parler du surnom de sa maîtresse, hein, qui s'appelait Marguerite Steinheil, qui était surnommée pompe funèbre. Alors, on peut vraiment mourir d'un orgasme ou pas?
On peut mourir pendant un orgasme, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un arrêt cardiaque ou une rupture aortique, et c'est ça qui fait mourir au final. Ouais. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, l'orgasme va provoquer plein de choses dans le corps, dont une accélération du cœur, de l'oxygénation dans le sang, et du coup, faire travailler un petit peu le corps et tous les organes peut-être un petit peu plus vite, qui fait que on peut avoir un petit accident cardiaque ou une rupture d'aorte.
Ouais, bon, alors donc ça veut dire qu'il faut surveiller sa santé par ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint le septième ciel, qui n'ont pas encore ressenti ce fameux orgasme dont on parle, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Eh bien, on peut leur dire que la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. La mauvaise, c'est que je n'ai pas de recette magique et qu'il n'existe pas de recette magique et de bouton magique pour avoir un orgasme, même si le gland du clitoris peut vraiment beaucoup aider chez les femmes. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le plaisir, justement, c'est quelque chose de qui évolue tout au long de la vie, qui évolue avec des partenaires, qui évolue seul et qui peut y avoir plein de choses qui vont l'améliorer. Donc, se poser des questions de qu'est-ce qui me fait plaisir, moi, dans la vie, comment je m'accorde du plaisir, comment je me fais du bien, quelle est l'estime que j'ai de moi. Toutes ces choses-là à côté, au-delà du sexe, vont amener à une peut-être facilité, à une ouverture qui va permettre d'aller vers ce plaisir-là et de l'accepter pleinement.
D'accord, donc ça se situe ailleurs en fait, hein. C'est-à-dire que tout est lié quoi.
Tout est lié, la curiosité, la culture, le fait de lire, d'écouter, d'entendre, de se rendre compte qu'on est...
S'ouvrir quoi.
S'ouvrir, de se rendre compte qu'on n'est pas anormal si ça ne marche pas comme on l'entend dans les médias ou ailleurs, de se rendre compte que on ne culpabilise pas non plus, que l'injonction un petit peu à la performance, à l'orgasme, au fait de jouir en permanence et tout le temps, c'est pas forcément, c'est une pression de plus clairement.
RTL,
le jeu concours de Nous voilà bien.
Cette semaine, le beau cadeau, un cadeau qui vole. Vous pouvez gagner, écoutez bien, un drone Big Ben Hawk. Il est ultra facile à piloter depuis votre smartphone. Il possède de multiples fonctionnalités et tout le monde peut s'en servir. Bref, c'est une activité à partager en famille. Pour participer, il suffit de liker notre page Facebook et d'écrire « Je participe » sous le poste du jeu ou alors de suivre notre compte Twitter et de retweeter notre publication. Annonce du gagnant la semaine prochaine dans Nous voilà bien. Eh bien justement, on est vraiment bien grâce à nos invités, on ne touche plus terre. Alors un grand merci à vous Philippe Guéry. Je rappelle que vous êtes ancien responsable psychologique du centre anti-stress d'Air France et que vous êtes également coach et conférencier. Merci de nous avoir éclairé de la sorte aujourd'hui. Merci Marc Brun. pour ce petit voyage dans les étoiles. Et je rappelle la Fédération des astrologues francophones. Et puis merci beaucoup Claire Alquier. J'invite les auditeurs qui voudraient s'intéresser davantage à votre travail et à leur sexualité à se rendre sur le site de cabinet des curiosités féminines. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, gagnez du temps en vous rendant directement sur nos réseaux sociaux. On va y poster toutes les infos du jour. Vous y retrouverez tout l'historique. Hein, d'ailleurs, des bons conseils de nous voilà bien. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute d'RTL. Nous, on se dit à lundi à 15h, donc dans En effet pour s'entendre, l'émission du partage et de la réflexion. Et puis sinon, la semaine prochaine, samedi 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, on parlera des énergies, de celles que l'on peut produire chez soi pour faire des économies, à celles qui circulent dans notre corps. Je vous embrasse, aimez-vous, éclatez-vous et à lundi.